Bonjour et bienvenue au podcast Cœur à cœur. Je suis Julie, multipassionnée et facilitatrice en expansion. Avec ce podcast, je souhaite partager avec toi mes expériences, connaissances et mes prises de conscience en lien avec le développement personnel, le bien-être, la spiritualité, le yoga et tous les autres sujets qui me passionnent. Mon but? T'inspirer à poser des actions qui favoriseront ton expansion et échanger avec toi de cœur à cœur pour qu'ensemble, on s'élève. On y va? Bonjour et merci d'être là pour mon deuxième épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des différentes formes de self-care. Donc, c'est ce que je vais élaborer dans quelques instants. Donc, tout d'abord, si tu as écouté mon introduction, merci beaucoup. Merci aussi d'avoir pris le temps de te connecter pour écouter le deuxième épisode. Donc, c'est vraiment très apprécié. En fait, aussi, je voulais m'excuser un peu si c'est incohérent parce que j'ai pas vraiment envie de faire un gros montage, le mis à part mettre la petite chanson d'introduction et à la fin parce que je veux vraiment être le plus authentique et transparente. Puis dans le fond, je vais vraiment m'exprimer en disant les choses comme elles viennent. J'ai pas préparé grand-chose. Je me suis seulement pris quelques petites notes pour être capable de faire un résumé par la suite. Mais c'est vraiment, c'est un peu décousu, puis c'est un peu comme ça que je suis, donc vous allez vous y faire. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de self-care parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup parler depuis plusieurs années, puis je voulais un peu venir déconstruire peut-être ce qu'on connaît du self-care et venir définir c'était quoi pour moi, vraiment prendre soin de soi. Parce que souvent, on entend que le self-care, par exemple, quelqu'un qui va aller prendre un bain avec des chandelles, peut-être un petit verre de vin, un bon livre. Puis, en fait, c'est sûr que c'est vraiment du self-care, ça aussi. Moi, je suis vraiment dans ce team-là de prendre des bains avec un livre. Des fois, j'écoute même Grey's Anatomy. Aucun jugement ici. Mais je voulais aussi montrer par le podcast que le self-care, c'est vraiment pas seulement de faire ce type de choses-là. C'est vraiment des choses qui nous font du bien. C'est prendre une action concrète pour faire quelque chose qui va nous faire du bien, mais qui va nous faire du bien réellement, concrètement. Donc, j'avais quelques pistes de réflexion ici que je voulais partager aujourd'hui pour peut-être vous donner envie de mettre du self-care vraiment présent dans votre quotidien. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire à tous les jours sans aucune gêne, avec en se donnant tout l'amour du monde. C'est facile d'intégrer du self-care dans toutes les facettes de sa vie. Donc, j'ai quelques suggestions ici pour vous aujourd'hui, puis on va pouvoir s'en reparler. Vous me direz c'est quoi que vous faites, vous, pour prendre soin de vous. J'ai vraiment hâte de vous lire à ce sujet-là. Puis éventuellement, je vais mettre en place mon programme, puis ça va être une grosse portion donc de mon programme. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de lire. Peut-être qu'il y a plein de choses auxquelles j'ai pas pensé. Donc, j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous à ce sujet-là. Donc, premièrement, pour moi, une des façons les plus faciles et abordables de pratiquer le self-care, c'est de vraiment se faciliter la vie en s'organisant. Donc là, qu'est-ce que je veux dire quand on s'organise? C'est, par exemple, d'utiliser un agenda. Maintenant, avec la technologie, vous n'êtes pas obligé de traîner un cahier. Il y en a pour qui l'écriture, c'est pas quelque chose qui plaît. Puis maintenant, il y a Google Agenda, il y a différentes applications que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur ou sur votre téléphone intelligent, ou simplement avec un agenda en papier. C'est vraiment très simple avec un agenda, ne serait-ce que de déposer tous ces rendez-vous, peut-être même les tâches. Moi, j'utilise beaucoup mon Google Agenda dans mon téléphone pour me rappeler que j'ai parti une brassée de lavage, puis comme ça, ben j'oublie pas d'aller mettre ma brassée sur le rack pour qu'elle puisse sécher ou étendre sur la corde à linge, parce que c'est vraiment une information que ça me tente pas que mon cerveau ait besoin de garder. Il y en a qui vont peut-être qualifier ça de paresse. Moi, c'est vraiment que comme ça, mais je fais vraiment de la place dans ma tête, puis c'est une façon vraiment que j'ai trouvé de prendre soin de moi en ne gardant mon focus que sur ce qui était essentiel pour moi. Également, un autre truc qui est vraiment très facile. En fait, il y en a pour qui faire du ménage, ça va vraiment être une forme de self-care. Moi, tous ceux qui me connaissent vont savoir que je ne suis pas friande de faire du ménage, mais j'adore quand c'est propre. Donc, la façon que j'ai trouvée pour prendre soin de moi au quotidien en ayant un environnement plus propre, c'est vraiment d'épurer. Donc, épurer les possessions qu'on a. En ayant deux jeunes enfants à la maison, on a des jouets, mais aussi des petites mitaines, l'automne, l'hiver, au printemps. Donc, c'est sûr que si on avait 8 paires de mitaines par enfant, il y aurait des bonnes chances qu'il y aurait des mitaines qui traînent partout dans la maison. Donc, c'est un truc qu'on a trouvé de juste essayer de limiter la quantité de chaque objet qu'on a pour, de un, ne pas trop les chercher, et de deux, que ça soit beaucoup plus rapide ramasser la maison. On est dans un processus, en fait, pour épurer la maison continuellement parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui rentrent, d'autres qui sortent, les besoins changent, puis c'est bien correct comme ça. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez obligatoirement être minimaliste, mais simplement de peut-être prendre conscience que toutes les possessions que vous avez, tout ce qui est dans la maison, aussi a sa propre énergie et prennent de l'espace. Donc, un endroit plus épuré va souvent permettre d'avoir aussi plus de clarté mentale. C'est quelque chose que j'ai découvert au quotidien parce qu'avant, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de possessions puis j'avais de la difficulté à m'en défaire. Depuis quelques années, en fait, j'essaie de pratiquer le plus en plus possible le minimalisme tout en conservant un nombre d'objets adéquats par rapport, entre autres, au fait que j'adore cuisiner. Donc, c'est certain que pour moi, c'est essentiel d'avoir plusieurs bols parce que j'ai pas envie, à chaque fois que je cuisine, de toujours être obligée de laver le bol dans lequel je viens de mettre un aliment pour pouvoir le réutiliser. Peut-être que pour vous, quelques bols, ça va être vraiment suffisant. Puis, ben, vous n'allez pas passer 45 minutes par jour à faire de la vaisselle et ce sera une forme de self-care. C'est aussi une façon de se libérer du temps, en fait, pour faire des choses simplement qu'on aime. Des choses qu'on a envie de faire, des loisirs, peut-être que vous faites du sport, peut-être que vous aimez faire des casse-têtes, du tricot, de la peinture, peu importe. Donc, moins on passe de temps à faire des tâches qui sont, entre guillemets, obligatoires, plus on en a pour faire des choses qu'on apprécie, qu'on a envie de faire, ou pour justement intégrer des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement dans notre quotidien parce qu'on passe notre temps à ramasser, à faire des tâches, à gérer des objets, acheter des vêtements, enlever les étiquettes, les nettoyer, les faire sécher, les plier, les ranger, faire de la place. C'est toutes des choses qui prennent du temps, puis que selon moi, c'est vraiment facile de prendre soin de soi simplement en diminuant les possessions qu'on a. C'est important, par contre, de garder une quantité d'objets avec laquelle on est confortable parce que je me souviens plus dans quel livre j'avais lu ça, mais si on se débarrasse de trop de choses en même temps, notre cerveau va être comme stressé qu'il y ait autant d'espace puis va être porté à acheter des choses supplémentaires pour venir combler tous les vides. Donc, si vous êtes dans une démarche pour épurer, mais c'est possible que ça soit pas bien pour vous de vous débarrasser de trop de choses non plus, puis ensuite d'en faire rentrer plein d'autres dans votre maison. Une autre chose qui est vraiment le self-care qu'on devrait essayer le plus possible de mettre en place, c'est de mettre ses limites. Donc, avoir vraiment des limites claires sur le temps qu'on veut allouer à une tâche, sur les interactions qu'on veut avoir avec les autres, sur jusqu'à où on est prêt à aller pour faire une telle tâche pour une telle personne. Parce que parfois, quelqu'un nous demande un coup de main, on va aller dire oui, ça nous fait très plaisir d'aller aider cette personne-là. Puis finalement, quelques jours plus tard, on a mal dormi, on a, peu importe, plus de tâches au travail, les enfants sont plus demandants, ils ont besoin d'aller bouger. Puis là, finalement, on se ramasse à ne pas se respecter pour respecter notre parole. C'est certain que si vous avez donné votre appui à un ami qui va déménager, ça se peut que ce jour-là, ça ne vous tentait pas de déplacer des boîtes. Puis on s'entend que ce n'est pas une tâche qu'on peut remettre au lendemain. Généralement, tout le monde est mobilisé pour le déménagement. On a loué un camion. Parfois, on ne peut même pas rester de toute façon dans le lieu de où on part. Donc, on s'entend qu'il y a certains engagements qu'on doit respecter idéalement, sinon on va se mettre déjà à dos. Mais en général, si un ami vous écrit pour prendre un café, puis ça vous tente plus parce que, je sais pas, vous avez le goût. Finalement, vous avez super envie d'aller travailler, de faire du sport ou peu importe, mais vous pouvez aussi simplement contacter votre ami, lui dire « Hey, ça me tenterait plutôt d'aller faire ça, est-ce que tu veux te joindre à moi? » Ou bien « J'ai besoin d'être seule finalement, ça dérange-tu qu'on remette notre activité à demain? » Là, c'est sûr qu'en temps de COVID présentement, on voit vraiment moins de personnes, donc on n'a pas peut-être pas les mêmes engagements, puis c'est peut-être plus facile justement de mettre ses limites. Mais j'espère vraiment que c'est quelque chose que tout le monde va se souvenir quand on va revoir un peu une vie normale puis qu'on va pouvoir avoir encore une vie sociale peut-être comme avant, qu'on ne se rend pas service en ne s'écoutant pas puis en essayant simplement de faire passer les besoins des autres au-devant des nôtres. Puis parfois, peut-être même que votre ami, ça ne tente plus, mais que lui aussi, de son côté, il respecte son engagement parce que vous avez pris un engagement ensemble. Donc, c'est vraiment... on peut être surpris parfois aussi de l'ouverture des gens. Il y a des situations pour lesquelles c'est vraiment facile d'avoir mis une limite claire, de l'avoir respectée. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus un trigger pour nous. Puis à ce moment-là, bien, ça peut être bien de faire une introspection, à savoir pourquoi ça vient nous chercher à ce niveau-là d'aller... de ne pas être en mesure de s'écouter ou d'aller au-delà de notre parole parce que, par exemple, l'honnêteté ou les engagements, c'est des valeurs qui sont importantes pour vous. Donc, ça vaut la peine quand même de se questionner à ce niveau-là. Puis, c'est rare qu'on s'en veut, au final, d'avoir respecté ses limites. Si on est invité dans un party, puis finalement on est hyper fatigué, mais on sera pas de bonne compagnie de toute façon, rendu à 8-9 heures le soir, ça se peut qu'on a juste hâte de retourner à la maison puis mettre son pyjama. Donc parfois ça peut être juste vraiment une grosse forme de self-care, de self-love envers soi-même, d'accepter que ce soir-là, bien, on pensait de faire quelque chose, puis finalement on reste en pyjama, on est en mou, on remplit notre jauge d'énergie, puis on est en feu le lendemain, prête à affronter le monde. Donc, ça vaut vraiment la peine. Sinon, une autre forme pour moi de self-care, en fait, ça pourrait être d'intégrer peut-être une pratique de journaling. Là, je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ce terme-là, même peut-être un terme complètement nouveau pour vous. Je vais faire un autre épisode à ce sujet-là, puis probablement donner un atelier aussi parce que ça m'a été demandé sur les différentes formes de journaling. Donc, en fait, je vais vous l'expliquer brièvement ici. Le journaling, c'est vraiment simplement de l'écriture. Habituellement, c'est de l'écriture, mais pas d'écrire une histoire ou quelque chose qui est fictif. Ça va être plutôt d'aller écrire quelque chose qui est introspectif. Donc, par rapport à comment on sent, par rapport à une situation qui nous a ébranlé dans la journée. Puis, quand vous vivez une situation qui vous incommode, particulièrement, ça peut être aussi une façon de prendre soin de vous, de vous asseoir pour faire du journaling, voir plus clair sur cette situation-là, vous poser des questions, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis affectée par cette situation-là, pourquoi j'ai pas été capable de réagir comme telle ou telle façon, comme j'aurais souhaité dans ce contexte-là. Ça peut être vraiment... très éclaircissant de mettre sur papier, vraiment sur papier, tout ce qui s'est passé relatif à cette situation-là, comment on s'est senti après coup, comment on se sent. Puis parfois, les solutions viennent d'elles-mêmes, puis au final, la situation qui nous incommodait énormément devient toute légère, puis on peut passer à autre chose. Tu sais, on n'a pas besoin d'en faire de l'insomnie ou de repasser cette histoire-là dans notre tête pendant plusieurs jours. Donc, pour moi aussi, c'est vraiment une forme de self-care, de faire une introspection, puis de prendre le temps d'essayer de mieux se connaître et de aussi avoir un regard un peu plus externe de la situation. Au final, quand on relit ce qu'on a noté, c'est très, très aidant. Parce que parfois, on a tellement les deux pieds dedans qu'on peut juste pas... on peut juste plus voir. Fait que c'est sûr qu'il y a pas de clarté, puis que c'est très incommodant pour nous dans ces contextes-là. Mais je vous en reparlerai du journaling parce que, mon Dieu, je pourrais vous en parler pendant comme une heure juste de ça. Donc, une autre forme aussi de self-care, c'est vraiment de dormir, de se reposer, mais surtout d'honorer son énergie, de respecter l'énergie qu'on a à chaque jour, où est-ce qu'elle se situe, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça. Parfois, je comprends qu'on n'a pas tous la latitude dans notre horaire pour adapter nos activités, ou bien si on a envie de dormir mais nos enfants se réveillent, c'est certain qu'on va pas les laisser nécessairement tout seuls dans la maison. Il va falloir aller se lever puis être avec eux. Mais de quand même accepter peut-être de modifier ses plans si on se rend compte qu'on est déjà fatigué puis que la journée est pas terminée, ou essayer de trouver un moment dans la journée pour simplement prendre un moment de pause, se redonner l'énergie qu'on a besoin pour penser à travers ensuite le restant de la journée. C'est vraiment important de faire ça le plus souvent possible. Puis c'est sûr que si on travaille, je sais pas, dans un magasin, mais on peut pas décider qu'on prend une pause supplémentaire sans que notre boss nous le permette. Puis on a des fois une convention collective qui nous impose le nombre de pauses qu'on peut prendre à la journée, mais ça peut être juste de prendre quelques respirations dans la voiture avant de rentrer dans la maison, juste pour se redonner un petit boost d'énergie. Puis d'avoir la réflexion, peut-être que ce soir je vais me coucher plus tôt, ou bien qu'est-ce qui fait en sorte que je suis aussi fatiguée aujourd'hui? Parce que c'est possible que vous savez très bien ce qui a fait en sorte que vous êtes fatiguée. Puis c'est possible que non, que vous devez prendre le temps d'analyser, peut-être analyser votre cycle menstruel, vous êtes à quel jour de votre cycle. Peut-être analyser aussi votre routine en soirée. Est-ce que ça vous a tenu éveillé parce que vous avez joué sur votre téléphone jusqu'à la toute dernière seconde avant de vous mettre au lit? Donc, il y a vraiment plein de façons d'observer son énergie, puis de prendre action pour la conserver le plus possible, puis la dépenser au bon moment. Et par rapport à l'énergie, je vous indiquais dormir et se reposer, mais ça peut être aussi de dépenser de l'énergie. Quand on en a trop, qu'on est une petite boule de feu, qu'on doit faire sortir le tout, on ne se fait pas un cadeau non plus en venant essayer d'éteindre le feu sans avoir dépensé ça. Si on a trop d'énergie, notre corps, il nous le démontre qu'on a vraiment besoin de se dépenser. Est-ce qu'on peut aller prendre une marche, courir, danser, peu importe. Là, je suis pas du tout dans le jugement. Vous pouvez dépenser ça comme vous voulez. Mais l'important, c'est vraiment de s'écouter puis de s'honorer là-dedans. Aussi, parfois, on peut manquer d'énergie, puis ça peut être par le mouvement qu'on va aller dépenser de l'énergie, puis qui va venir nous en redonner un boost encore plus grand. Il y a différentes techniques de respiration de yoga qui sont énergisantes, différentes postures, quelques salutations au soleil, par exemple, ça peut vous redonner tout un boost, puis c'est environ une minute par salutation au soleil, donc c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps, jamais. Je connais pas vos horaires, là, évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui peut se faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir un tapis non plus de yoga, c'est sûr qu'il y a idéalement un plancher au moins un peu propre, ça serait probablement quelque chose d'apprécié, mais vous pouvez le faire sur un plancher un peu confortable, ou peut-être déposer seulement un petit coussin si c'est pour une douleur au genou, juste le temps de vous énergiser. Donc, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites. Donc, ça, c'était un autre point qui est vraiment pour moi une grande forme de self-care. Puis, encore une fois, de self-love, d'honorer vraiment notre énergie, comment on se sent, où on en est. C'est vraiment important. Puis, par rapport au mouvement, c'est une forme de self-care de bouger, oui, mais de bouger parce qu'on aime son corps et pas parce qu'on l'aime pas. Ça a été beaucoup à la mode dans les dernières années, en fait probablement depuis toujours, de bouger pour perdre du poids, pour s'énergiser aussi, c'est vrai, que c'est vraiment, vraiment important puis que c'est vraiment efficace, mais c'est pas du self-care selon moi si on le fait pour les mauvaises raisons. Encore là, je dis les mauvaises raisons, pas que ce n'est pas noble de perdre du poids, mais si votre corps est dans une certaine condition présentement, il y a probablement une raison. Peut-être que vous avez eu un bébé, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de cuisiner vraiment dernièrement puis que vous avez plus mal mangé, peut-être que vous êtes un peu plus triste puis que ça ne vous tente pas de bouger de ce temps-ci. Puis c'est juste de prendre le temps de reconnaître pourquoi on est comme ça présentement. Puis, est-ce que c'est vraiment bouger pour modifier son corps ou bouger parce que ça nous fait du bien, parce que ça libère des endorphines, parce que ça nous fait sentir plus éveillés, parce qu'on dort mieux le soir? Il y a tellement de raisons de bouger parce qu'on aime son corps. Donc, c'est juste peut-être de faire cette réflexion-là. Puis, si votre but, c'est de perdre du poids, bravo, je vous encourage là-dedans si c'est ce que vous ressentez. Mais si c'est surtout perdre du poids parce que vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, pas parce que la société vous dit que vous êtes un homme ou vous êtes une femme, fait que vous devriez avoir un certain gabarit, parce que ça, c'est pas du mouvement qui est sain selon moi pour vous, pour votre santé mentale aussi. Je pense que c'est plate de se mettre cette pression-là aussi, parce que parfois on bouge, puis on a seulement le corps que la nature avait prévu pour nous, puis on continue à bouger, puis on se décourage parce qu'on perd pas de poids, parce que nos muscles gonflent pas. Puis c'est vraiment, ça devient plus triste que d'autres choses pour la personne qui fait tous ces efforts-là, puis qui est pas satisfaite au final. Tandis que si vous bougez parce que vous avez envie de vous sentir d'une telle façon, parce que ça vous fait vraiment du bien, parce que ça vous fait sortir votre colère, peu importe, là, je considère ça vraiment comme une forme précieuse de self-care. C'est pas quelque chose que je trouve nécessairement facile. Bouger, moi, depuis que j'ai eu mon deuxième enfant, je suis particulièrement fatiguée, il fait pas tout à fait ses nuits encore, donc souvent, ça me tente pas de bouger. Puis parfois, ben le vrai self-care, c'est juste de réaliser que ce jour-là, ça nous tente pas de bouger, on a envie de se reposer, ou on va peut-être faire un yoga yin beaucoup plus doux, on va maintenir une posture parce qu'on a vraiment pas d'énergie, puis c'est correct comme ça aussi. On vient connecter avec son corps d'une autre façon, puis on se sent bien au final de s'être respecté là-dedans. Sinon, dans le même ordre d'idées, se préparer un repas sain. Là, je ne vais pas partir de débat, je suis all-in pour le fast-food, le chocolat ou peu importe, si on a envie de se gâter. Mais pour moi, comment on se gâte vraiment, c'est quand on se nourrit vraiment le corps, l'âme, en cuisinant quelque chose de vraiment bon, un repas qu'on sent bien avoir mangé, pas qu'on a de regrets, pas un repas qu'on se sent coupable ou qu'on se sent ballonné parce qu'on a trop mangé. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin non plus d'être quelque chose de hyper santé. Si pour vous, vous aviez prévu manger une salade, bien, ça peut être simplement de faire votre vinaigrette maison avec des bons ingrédients que vous avez envie de manger. Puis juste ça, bien, ça va vous avoir donné ce beau feeling-là d'avoir pris l'initiative de faire quelque chose qui vous nourrissait, puis d'avoir pris ce temps-là aussi. Ça fait vraiment du bien de prendre le temps, pour soi, pour son bien-être, pour se sentir bien. Puis c'est sûr qu'au niveau de la santé, là, je ne suis pas nutritionniste, mais on contrôle 100% des ingrédients qui se trouvent dans notre repas quand c'est nous qui cuisinons. Donc, c'est certain que j'imagine qu'il y a vraiment plus de nutriments, ben, dépendamment des choix qu'on fait, évidemment, mais dans un repas qu'on a pris le temps de cuisiner soi-même. Puis, ça nous permet aussi de... Si notre corps parfois nous envoie des messages, par exemple, vous avez une grande envie de manger des bleuets, bien mangez-en des bleuets. Il y a peut-être une raison que votre corps va vous donner le goût de manger ça. Peut-être qu'il y a un nutriment dans les bleuets que vous avez besoin aujourd'hui. Puis c'est important de s'écouter aussi, de manger ce qu'on a envie. C'est sûr que si votre corps vous donne tout le temps le goût de manger une poutine, je ne sais pas à quel point c'est dans les nutriments que vous allez chercher quelque chose, mais... Il n'y a pas de honte à nourrir cette faim-là aussi, une faim qui est plus seulement au niveau de la bouche, seulement parce que vos papilles réclament un certain aliment qui est délicieux plutôt que nutritif. Mais c'est de faire un certain équilibre à ce niveau-là, puis d'aller manger quelque chose qui vous nourrit ou de prendre le temps de le savourer, vraiment vous asseoir, puis le manger en pleine conscience, prendre le temps de déposer votre fourchette quand vous mangez, peut-être boire une petite gorgée d'eau, vraiment savourer, humer l'odeur délicieuse de votre repas. Ça aussi, c'est une façon de se nourrir bien au-delà de seulement ce qu'on met dans notre bouche. Puis mon dernier petit point, en fait, pour les différentes formes de self-care que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est de simplement s'accorder du temps pour jouer, pour s'amuser, pour faire un loisir. Comme quand on est enfant, on se pose pas la question de quoi je vais avoir l'air, est-ce que c'est de mon âge, est-ce que j'ai le droit de faire ça. Tu sais, ça peut être vraiment n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire des constructions avec des blocs, avec mes enfants, puis ensuite, on fait des histoires. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de prendre ce temps-là pour pas se prendre au sérieux, seulement s'amuser, être dans le moment présent. Peut-être que vous avez une toile que vous avez commencée il y a 4 ans, qui traîne encore dans votre atelier, que vous n'avez jamais pris le temps de continuer, ou peut-être juste finir le livre que vous avez commencé, qui traîne sur votre table de chevet depuis des mois. Et ça peut être de prendre le temps aussi de lire un livre, mais simplement pour le loisir de la chose, pas juste un livre qui va vous permettre d'avoir des connaissances supplémentaires ou sur une thématique très, très sérieuse. Ça peut être un roman très léger, ça peut être un roman noir, ça peut être peu importe. Parfois, on intègre tellement que on est en apprentissage quand on fait la lecture, qu'on arrête carrément de lire des romans récréatifs, puis pourtant, ça fait tellement de bien. Ça peut être aussi d'aller jouer au ballon dehors, c'est pas grave, peu importe quel âge vous avez, vous pouvez vous acheter un ballon puis aller jouer, ça fait tellement du bien. Puis, ça permet de reconnecter avec soi-même, puis aussi de connecter avec les autres, parce que le self-care, c'est pas toujours quand on est tout seul, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité-là d'être seul très souvent. Donc, si on attend d'être tout seul, avec aucune personne pour nous déranger, aucune distraction, bien, ça n'arrivera peut-être pas, surtout présentement où c'est pas tout qui est ouvert, les écoles, les garderies, parfois, il faut garder les enfants à la maison parce qu'ils ont le nez qui coule, des choses comme ça, en télétravail, parfois les deux ou avec les colocs ou peu importe. Donc, il ne faut pas juste attendre d'avoir ces moments-là seuls, mais si c'est ce qui vous appelle puis c'est ce que vous avez du bien, évidemment qu'il faut essayer de mettre ça à l'horaire. C'est sûr que moi, j'adore lire, mon conjoint adore écouter le hockey. C'est sûr que si je veux vraiment m'accorder un moment de self-care, je ne vais peut-être pas aller m'asseoir à côté pendant qu'il écoute la game de hockey si j'ai besoin de paix puis de repos. Mais je considère, moi, que ça me fait prendre du temps pour moi quand même de faire cette activité-là à côté de lui, comme on passe un moment ensemble. Puis, on est tous les deux contents au final parce que les deux, on a fait quelque chose qu'on aimait en étant ensemble, même si on ne s'accordait pas d'attention. Donc, c'est vraiment d'analyser peut-être comment vous vivez ça présentement. Est-ce que vous avez des trous? Est-ce que vous avez un petit 5 minutes le matin ou... Ou je sais pas, pendant que vous allez dans la douche, le temps que l'eau se réchauffe, ou peu importe, essayez de trouver des petits trous pour essayer de penser à qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous à tous les jours. C'est vraiment, vraiment important. Ça fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, vraiment pas. Quand on prend pas de temps pour soi, parfois on peut devenir à presque jalouser les gens qui ont ce temps-là pour eux. On se sent de plus en plus déconnecté avec soi-même, avec son essence, puis au final, on se reconnaît même plus. Donc, c'est vraiment, vraiment important de prendre ce temps-là. Moi, comme j'ai dit dans mon intro, si vous l'avez écouté, c'est le self-care qui m'a permis de voir que quand je prends soin de moi, je suis une meilleure maman, je suis plus présente pour mes enfants, je vais pas... être en colère aussi facilement, un petit dégât d'un verre d'eau sur la table va pas me faire pogner les nerfs parce que c'est juste de l'eau, il n'y a pas de danger. Mais c'est sûr que si j'avais jamais de moment, ben ça serait seulement une tâche de plus, ça viendrait alourdir la charge mentale et tout. Donc là, à ce moment-là, ben peut-être qu'un petit dégât de verre d'eau, ça me ferait pogner les nerfs, je sais pas. Mais je le constate vraiment que quand j'ai ce temps-là, pour moi, quand je prends le temps de me prioriser, par la suite, je suis vraiment plus disposée, puis je suis vraiment plus en moyen de prendre soin des autres, de tous les gens que j'aime, d'être plus à l'écoute. Ça, ça me fait sentir vraiment, vraiment bien. Donc, j'espère que ça va vous avoir inspiré à peut-être entamer une réflexion donc sur comment vous prenez soin de vous au quotidien. Venez m'écrire, j'ai vraiment envie d'avoir des beaux échanges avec vous à ce niveau-là. Il y a plein d'autres façons, là. C'est seulement quelques points que je vous ai nommés là, qui sont les points là, qui me sont venus sur le fly, comme on dit. Mais j'ai vraiment hâte d'échanger avec vous. J'espère que ça va peut-être vous motiver à passer à l'action, de juste vous prioriser un petit peu plus, de regarder est-ce que vous structurez votre quotidien d'une manière adéquate pour vos besoins, est-ce que votre maison est assez épurée pour que ce soit pas long, faire le ménage, est-ce que vous mettez vos limites, les situations que vous vivez, à quel point ça vous incommode, est-ce que vous dormez et bougez suffisamment, mangez des repas qui vous nourrissent, puis le temps de jouer, retrouver son cœur d'enfant. C'est tous les points qu'on a abordés aujourd'hui que j'espère que vous allez les garder en tête, puis que ça va peut-être teinter un petit peu votre quotidien dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour aider à faire connaître le podcast, tu peux aller mettre une évaluation sur iTunes, mais surtout, partager le podcast avec les gens de ton entourage. Merci beaucoup pour ton écoute et pour connecter avec moi, tu peux cliquer sur les liens dans la barre de description. J'ai vraiment hâte d'échanger avec toi. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode!